France, la Belgique, le Canada et les États-Unis, les francopholies s'installent en RDC du 7 au 13 septembre. Vivre au rythme des sonorités congolaises et étrangères au Centre culturel Meko, au Centre Wallonie-Bruxelles, au Théâtre de Verdure, à l'Hôtel Invest et dans certains bars désignés pour les folies. Avec à l'affiche, La Fouine, Soprano, Papa Wemba, J.B. Mpiana, Fali Poupa, Fabregas, Lexus Legal, Jean Goubalkalala et tant d'autres artistes congolais et internationaux. Les Francopholies de Kinshasa, du 7 au 13 septembre, avec l'ASBL, Aphrodisiaque et Radio Capi.
Bien, merci d'être à l'écoute du magazine au Capi Service et un coucou à tous les auditeurs des Goma qui nous écoutent sur 105.2 FM. Et très bientôt, au Capi Service va se produire en direct à Goma. Nous serons là les 23 et le 24 septembre 2015 dans la salle Linda. Voilà, et c'est là-bas que deux grandes émissions publiques seront organisées à l'occasion, n'est-ce pas, des 70 ans des Nations Unies. Alors, vous êtes tous invités à Goma, vous êtes à Goma, vous nous écoutez en ce moment. Vous êtes invités le 23 et le 24 septembre prochain dans la Salinda pour deux émissions à choc avec Okapi Service. Ne manquez pas à ce rendez-vous. Eh bien, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, nous allons parler du suicide. Quelles sont les causes et moyens de prévention? Des cas de suicide sont parfois signalés dans certains coins du pays. Un acte qui étonne bon nombre des Congolais, car le suicide n'est pas très ancré dans nos us et coutumes. Alors, que peuvent être les causes du suicide et comment le prévenir? Comme je disais, j'ai donné un exemple. Souvent, on regarde à la télé où vous entendez un matin quelqu'un s'est pendu, il s'est donné la mort ou a pris des cachets, et puis voilà, overdose, et puis la personne a trépassé. Alors, qu'est-ce qui peut pousser certaines personnes à commettre cet acte? Nous en parlons avec M. l'abbé José Pundu, il est psychologue. Monsieur l'abbé, bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue.
Merci.
Alors, comment vous définissez le suicide?
Le suicide, c'est l'acte qui consiste à se donner la mort pour une raison ou une autre. Donc, c'est un acte, en fait, qui est délibéré. Un acte qui est raisonné. N'est-ce pas? C'est quelqu'un qui prend la décision délibérément de mettre fin à sa vie.
Et pourquoi? Généralement, quelles sont les raisons qui poussent certaines personnes au suicide?
Eh bien, nous pouvons considérer le suicide de plusieurs manières. Des gens se suicident pour tout simplement mettre fin à une situation qu'ils estiment une situation, disons, soit déshonorante pour eux.
Par exemple,
eh bien, tu as volé, n'est-ce pas? Tu as volé et tu n'as pas la réputation de voleur. Et voilà que, parce que tu as volé, ta réputation est en jeu. Les gens apprennent que tu as volé, eh bien, tu te sens plus valable. À un moment donné, tu peux te dire, plutôt que de vivre sans vivre, sans honneur, sans, eh bien, je préfère mettre fin à ma vie. C'est un exemple que je donne comme ça.
Mais il y en a plusieurs.
Il y en a plusieurs. Il y a des cas plus graves que ça. Je prends par exemple ce qui arrive souvent chez des jeunes adolescents qui terminent leurs études et au moment où les résultats sortent, il n'a pas réussi. Et c'est un déshonneur pour lui, pour la famille. Alors il se dit, plutôt que de subir ce déshonneur, je préfère me suicider. Donc il y a ce suicide qui est comme une solution. Qui est considéré comme une solution à un problème, n'est-ce pas?
Ça peut être à cause d'une déception amoureuse.
Une déception amoureuse. Bon, un ami se suicide tout simplement parce que, bon, il a rendu enceinte une femme et, bon, après, il se dit, si moi qui suis marié, si ma femme le sait, si les enfants le savent, si la société apprend cela, eh bien, je n'ai plus de valeur et je ne pourrai plus vivre et soutenir le regard des gens. Alors, autant me suicider. Voilà donc des raisons. Mais il y a aussi une autre signification, un autre sens au suicide. C'est le suicide appel, le suicide SOS. C'est-à-dire, là, on parle plutôt de tentative de suicide, mais qui peut aboutir. Mais malheureusement, ça peut aboutir. Mais les gens font ce qu'on appelle, en termes tout à fait professionnels, le TS, ou la TS, donc la tentative de suicide.
De suicide. Hein.
On tente de se suicider. On prend une dose suffisante pour te mettre dans un état où les gens vont croire que tu es mort. Et en réalité, ce n'est pas la mort que tu recherches, c'est d'attirer l'attention sur toi, c'est d'attirer l'attention sur ton problème, c'est de dire, écoutez, au secours.
Voilà. Il y a même des gens qui font des grèves dès la faim et qui ne mangent pas pendant plusieurs jours et on a l'impression qu'ils sont en train de mourir.
Oui, la grève de la faim, bon, c'est très très discuté. On ne peut pas assimiler ça totalement à un suicide. La grève de la faim, ça peut être tout simplement un moyen de revendication des droits, un moyen de protestation par rapport à une situation
indéterminée. Mais il y a des gens qui en sont...
Oui, il y en a qui en sont morts.
Moi aussi.
Nous savons par exemple que Gandhi, le Mahatma Gandhi, il a fait une longue grève de la faim pour dire non à la guerre que les Indiens, Hindous et autres étaient en train de se mener. Vous voyez, il a dit, je ne peux pas supporter ça. Alors, vous aurez ma mort sur votre conscience parce que je vais faire cette grève de la faim jusqu'à ce que vous arrêtiez de vous entretuer. Eh bien, il a fallu que ces gens-là reviennent à la raison et se disent, cet homme est en train de mourir et nous aurons sa mort dans notre conscience. Et alors, ils ont arrêté les hostilités. Et donc là, c'est une grève de la faim qui est comme une action, n'est-ce pas, qu'on appelle non-violente. Bon, mais on discute beaucoup là-dessus, mais qui vise à faire pression. Une pression morale sur des personnes ou des institutions.
Alors, quand les gens se suicident, généralement, qu'est-ce qu'ils utilisent pour le faire?
Ben, le suicide, disons, les suicidaires utilisent plusieurs moyens. Il y a le moyen le plus direct, quelqu'un qui prend une arme à feu et qui se tire
une balle dans la tête.
Oui. Ça, c'est direct, imparable, n'est-ce pas? Mais il y en a qui prennent du poison. Ils prennent du poison, ça peut être des produits disons pharmaceutiques,
en quantité. Un overdose,
Il fait un overdose, n'est-ce pas? Ça peut être un poison puissant et qui tue sur le champ, par exemple, n'est-ce pas? Ça peut être aussi la pendaison, quelqu'un qui se pend. Ça peut être quelqu'un qui se jette du haut de
d'un bâtiment
à 10 étages. Il se jette et il meurt, n'est-ce pas? Eh bien, il y a plusieurs manières de...
Mais il y a même certaines personnes dans d'autres pays, on apprend, ils attendent à la gare lorsque les trains viennent.
Ils se jettent sur les rails et le train l'écrase, n'est-ce pas? Donc, il y a autant de manières de se suicider qu'il y a des suicidaires. N'est-ce pas?
Oui. Voilà. Suicide à cause des moyens de prévention. Au Capi Service reçoit aujourd'hui M. l'abbé José Poundou, psychologue. Des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Nous recherchons la voix de la paix 2015. Vous êtes chanteuse, chanteur ou un groupe de musique? Vos chansons parlent de paix, de réconciliation? Rendez-vous sur lavoixdelapaix.org pour participer et nous envoyer vos chansons avant le 5 octobre. En partenariat avec la Fondation Hirondelle, à travers un réseau de plus de 200 radios dans 5 pays d'Afrique, dont le vôtre, un jury africain et européen élira le vainqueur à qui nous produirons un album distribué dans le monde entier. Lavoixdelapaix.org, des chansons pour construire la paix et la réconciliation.
Bien, suicide, cause et moyens de prévention. Nous avons, merci aux internautes qui nous ont écrit. Héritier Mossama nous dit ceci, il a écrit depuis Kinshasa. L'idée des suicides est un état de trouble mental grave qui nécessite une aide, l'aide auprès de l'entourage. Voilà pourquoi il faut toujours trouver des gens auprès de qui vous pouvez partager vos problèmes. Il n'y a jamais eu des problèmes impossibles. Il y a toujours une solution. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Héritier Mossama?
Ben, je voudrais d'abord dire, répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le suicide peut être considéré par la personne qui se suicide comme une solution à un problème existentiel. Et donc, une solution, je dirais, ultime, la dernière solution, n'est-ce pas? Que j'ai essayé tout, et je ne m'en sors pas, eh bien, la dernière solution qui me reste, c'est de me suicider. Donc, de mettre fin à ma vie. Alors, c'est là où je dis que je suis d'accord avec Héritier qui dit qu'il n'y a aucun problème sans solution, n'est-ce pas? Donc, il y a toujours moyen de trouver solution au problème, mais je dirais il y a aussi moyen de vivre avec son problème. Parce qu'il y a des problèmes qui, dont la solution, c'est se résoudre à vivre avec son problème. Et à l'assumer et à le maîtriser, tout simplement.
Voilà.
À l'intégrer. À l'intégrer.
Voilà, il y a Chris Motombo, nous appelle de Kinshasa. Bonjour, Chris. Chris, bonjour.
Oui, bonjour, Marcel.
C'est Jody, on vous écoute.
Oui, c'est Jody, oui.
Ce sont
des cas que nous remarquons, n'est-ce pas, dans la vie courante. Il y a des gens qui se suicident parce que nos femmes se sont séparées de nous. Il y a aussi des femmes qui se suicident parce que les hommes se sont séparés d'eux. Donc, il y a même un garçon qui a présenté des examens d'État, qui a été dépourvu de son diplôme. Bon, il fait... se suicider, mais comme si pour lui c'est une solution par rapport à lui. Raison pour laquelle j'aimerais poser un peu des questions à notre invité de pouvoir un peu m'éclaircir. Notamment, ma première question est celle-ci. Est-ce que se suicider, c'est vraiment une solution par rapport à nos problèmes qui nous incombent? Et la deuxième question, est-ce que les gens qui se suicident, ils trouvent vraiment des solutions ou bien les solutions émanent d'où? C'est ça un peu difficile.
D'accord, monsieur Labbé.
Je crois que la personne qui s'est suicidée, ben, elle a résolu son problème. Elle a résolu son problème, elle n'existe plus. Donc, elle n'aura plus de problème, en fait. C'est fini, les problèmes pour cette personne-là, puisqu'elle ne vit plus. Mais pour nous qui sommes encore en vie et qui tenons à la vie et qui voulons vivre, eh bien, il est évident que lorsqu'on est confronté à un problème, il y a lieu de procéder à une résolution du problème qui soit positive. Et là, j'aimerais peut-être indiquer à notre, auditeur et à tous les auditeurs une méthode de résolution de problème que j'appelle la méthode CIREP. La méthode CIREP, c'est de quoi s'agit-il? C'est S comme stop. Quand on est en face d'un problème, première chose à faire, c'est de s'arrêter, c'est de se calmer. Parce que lorsqu'on est assailli par un problème, eh bien, la première réaction qui nous arrive, c'est l'agitation. On est agité, on ne sait pas où donner de la tête, et bon, on transpire, la respiration devient haletante et tout ça, eh bien... Stop. Arrête-toi. Quand il y a la guerre, par exemple, entre deux pays, entre deux groupes et tout ça, on dit cessez le feu. Ça, c'est la première étape. Stop. S comme stop. Arrêtez, calmez-vous. Faites quelques mètres de marche ou une respiration profonde, ou on s'assied calmement, ou on lit un livre, ou on fait quelque chose qui nous permet de nous calmer, de revenir, n'est-ce pas?
Melama, quitte ça mon thème. Voilà. Quitte ça mon thème. Un instant, avant de passer à la deuxième étape, on va accueillir Edo. Edouard, qui nous appelle depuis Iga Barrière, à Nitouri, et docteur Anissé qui passe un des Kikuites. Edouard, bonjour.
Bonjour, bonjour, Jean-Luc.
On vous écoute.
Oui, dans certains contrées, nous voyons que les autorités judiciaires parviennent à fouetter les cadavres des victimes de suicide. Alors, à quoi consiste ce geste?
Et pourquoi ils fouettent les cadavres des personnes qui se sont suicidées?
Oui, oui.
Voilà, c'est, voilà, vous voulez savoir pourquoi on fouette les cadavres, d'accord. Docteur Anissé Kipassa, vous êtes à Kikuite, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à Monsieur Labbé.
Oui. On vous écoute.
Merci Jody. Monsieur Labbé, juste, je voudrais rapidement aller dans la prévention, je sais que vous allez en parler. Comme vous le savez, Monsieur Labbé, dans le pays comme la Suède, le taux de suicide est très très important, c'est un problème de santé publique. Mais chez nous, est-ce que vous avez pensé, parce qu'on sait que le stress est un des facteurs, le stress social est un des facteurs déterminants pour le suicide. Est-ce que vous avez pensé comment dans notre pays on peut intégrer cela dans le programme national de santé mentale?
Ah, d'accord, monsieur Labbé.
Bon, j'étais justement en train de donner une méthode pour résoudre les problèmes, quelle que soit la gravité du problème. Première chose, comme je disais, c'est de s'arrêter, de se calmer. Stop. S comme stop. Deuxième étape, I comme identifier. Identifier le problème, c'est-à-dire se poser la question de savoir de quoi s'agit-il. Identifier le problème de la manière la plus objective, la plus précise, la plus détaillée possible. Mmh. Et identifier le problème, ça veut dire aussi identifier les acteurs qui sont concernés par le problème. Il y a toi-même, bien sûr, mais il y a peut-être d'autres personnes qui sont acteurs dans cette situation de problème que tu vis. Donc, identifier les causes du problème, identifier les motivations, donc les sentiments, les émotions qui habitent les acteurs dans ce problème, mmh. Bien, identifier le problème, c'est la deuxième étape la plus importante, parce que quand on a bien identifié le problème, eh bien, on a déjà une partie de solution. Mmh. La troisième étape, c'est justement R, comme rechercher. Rechercher quoi? Toutes les solutions possibles et imaginables. Eh bien, on fait ce qu'on appelle un inventaire de solutions. Des solutions les plus fantaisistes aux solutions les plus réalistes, les plus imaginaires. Eh bien, faire un relevé de toutes les solutions possibles. Parce que face à un problème, il n'y a pas qu'une solution, il y a une pléthore de solutions.
Des solutions.
C'est ça, des solutions. Mmh. On fait l'inventaire. Troisième, quatrième étape, c'est E, comme évaluer. Mmh. On évalue chaque solution, c'est-à-dire on se pose la question de savoir, eh bien, par rapport à cette solution, quels sont les avantages et les inconvénients? Quelles sont les possibilités de réaliser, de mettre en œuvre cette solution? Et une fois qu'on a évalué les différentes solutions, on retient la solution la plus satisfaisante pour soi et qui nous permet d'être gagnant. Mmh. Et alors, on peut passer à la dernière étape qui est la planification. P comme planifier. On planifie et on se dit, bon, voilà, je vais maintenant exécuter, n'est-ce pas, la solution que j'ai retenue. Je vais faire ceci à tel moment, avec ceci, à tel endroit. Et donc,
voilà une façon de résoudre le problème. Au lieu de se donner la mort.
Voilà.
Un instant, on va accueillir deux autres auditeurs. Jean-Raymond Kayembe, vous êtes à Kananga. José Mouchini, vous êtes à Camina. Jean-Raymond, bonjour. Jean-Raymond.
Bonjour à la radio Capi et à vous aussi à l'invité. Je voudrais tout simplement savoir quelle sera la solution lorsque la personne qui s'est décidée de se suicider vient vous consulter, vous demande un peu des conseils. Quels seront les conseils nécessairement qu'on peut donner à la personne comme cela? Parce que lorsque l'essai de prendre une décision pareille, c'est supposé qu'il est allé au bout de lui-même. Comment on peut le revenir, on peut le faire revenir à prendre conscience de vivre comme ça a été davantage? C'est la première question. Mais je me demande encore, l'État congolais, selon certaines dispositions de la loi qu'on a, est, n'incrimine pas le suicide, parce que le suicide en état n'est pas considéré comme une infraction quelles sont les solutions palliatives qui peuvent être données par le notre invité du jour qui est le sociologue de formation qui s'y connaît.
Il est psychologue.
Bien, merci.
José Mouchini, merci. José Mouchini de Kamina, bonjour.
Bonjour, merci, je dis.
On vous écoute.
Bonjour aussi à, M. Abbé, bonjour à tous les auditeurs de la radio Patria. Je pense bien, comme le M. Abbé venait de le dire, c'est un acte résolu de libérer aussi, qui commence par l'autodéconsidération. L'homme s'autodéconsidère, ça va les pousser dans l'isolement, il s'isole, lorsqu'il s'isole, il y a des esprits qui agissent sur lui. Parce que c'est un aspect aussi spirituel que je demanderai au monsieur Abbé de revenir un peu, parce que ça ouvre un accès au diable. Parce que moi, j'ai déjà vu quelqu'un pendu avec les lacets de ses chaussures. Comprenez que le poids d'abord de l'homme ne peut pas supporter ces petits lacets-là. C'est ainsi que je disais que c'est un aspect très spirituel. Le diable en profite. Et aussi, c'est quelque chose d'héréditaire, quelque chose de famille. Parce que si vous avez dans la lignée un parent qui s'était pendu, qui s'était suicidé, parce que bien même dans le dernier fils, il y en aura toujours des cas pareils qui vont revenir. Voilà un peu, je voudrais que c'est que le...
Monsieur l'abbé puisse
en revenir.
D'accord.
L'aspect spirituel, c'est quelque chose aussi de très grande importance.
Merci José de Kamina. Revenons d'abord à la question d'Edouard qui dit pourquoi on fouette les cadavres dans certains milieux et la personne qui s'est suicidée, qui s'est donné la mort, elle met tout le monde en colère et puis pour punir, la punir, on fouette le cadavre. Est-ce que c'est...
Bon, évidemment, c'est un non-sens.
Est-ce que
C'est un non-sens en fait, mais ça veut tout simplement dire, ça veut tout simplement dire la réprobation de la société vis-à-vis de cet acte-là.
Oui.
Si bien que on dit, eh bien, pour montrer que la société désapprouve cet acte de la manière la plus
sévère,
la plus sévère et énergique, eh bien, même le cadavre de cet homme, eh bien, nous devons lui donner
fouetter la punition,
lui donner une punition. N'est-ce pas? Comme si la personne était encore en vie, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est un acte de désapprobation, tout simplement. La société veut dire, nous désapprouvons cet acte et nous ne l'acceptons pas.
D'accord.
Alors, maintenant...
Docteur Anissé dit ceci, le stress est aussi un facteur considérable.
Absolument.
Est-ce qu'on peut l'intégrer dans le programme de santé mentale?
Absolument.
Pour prévenir
comme psychologue clinicien, je viens d'avoir un travail pendant toute une année avec un centre hospitalier ici à Kinshasa, n'est-ce pas, où l'on m'a demandé de m'occuper de l'appui psychologique, soutien psychologique au personnel soignant, au personnel qui travaille dans le centre de santé, n'est-ce pas. Eh bien, cela nous a amené, avec le personnel en question, tous les membres du personnel qui étaient concernés, et à évoquer quel est le problème le plus important dans leur milieu, c'est le stress. Et alors, pendant toute une année, je n'ai fait que cela, aider le personnel d'un centre hospitalier à gérer son stress, n'est-ce pas? Et ça, je crois que ça doit être absolument intégré dans les programmes de santé public, de santé mentale particulièrement.
D'accord. Raymond nous dit la personne qui veut se suicider peut venir auprès de vous, vous demande, vous dire qu'elle a trop de problèmes et elle ne sait plus quoi faire. Alors, quel conseil prodiguer à cette personne à ce moment-là?
Eh bien, la première chose, c'est se mettre à l'écoute. La première chose, avant de donner quelques conseils que ce soit, c'est se mettre à l'écoute de la personne. Une écoute empathique, c'est-à-dire une écoute où on essaye d'entrer dans le problème de cette personne. On la fait parler, on l'amène à exprimer le fond de son problème, n'est-ce pas? Ça, c'est la première étape la plus importante, parce que en définitive, ce qui peut amener les gens au suicide, c'est de n'avoir pas trouvé une oreille attentive. Il y a un cas qui nous a été signalé signalé par un auteur. Et ce cas s'est produit dans un hôpital psychiatrique, s'il vous plaît. Et c'est une infirmière qui s'est suicidée dans un hôpital psychiatrique, tout simplement parce que cette infirmière qui était là matin, midi, soir, en train de soigner des malades mentaux, en train de les écouter, et n'avait personne pour l'écouter, elle, oui. Par rapport à ses problèmes à elle. Jusqu'au jour où on l'a trouvée morte. Elle s'est suicidée, elle a laissé un papier, n'est-ce pas, où elle a écrit le motif de son suicide, c'est que, eh bien, elle n'a trouvé personne pour écouter ses problèmes, alors qu'elle, elle a passé toute sa vie à écouter les problèmes des autres. Oui. Et donc, je crois que la première chose, c'est celle-là. Oui. La deuxième chose, une fois qu'on a écouté la personne de manière empathique, donc de manière très très attentive, n'est-ce pas, eh bien, on essaye de l'aider à trouver les solutions aux problèmes qui l'accablent, n'est-ce pas? Mmh. Et ça, c'est un travail d'accompagnement psychologique, un travail, je dirais, de soutien psychologique que l'on fait lorsque on est outillé pour le faire. Et d'ailleurs, c'est un travail que nous tous nous sommes appelés à faire d'une certaine manière, parce que, quoi qu'on en pense...
Mais qu'est-ce qui peut alerter l'entourage qu'il y a un problème, que tel frère ou telle sœur a un problème et qu'il faut rapidement l'aider?
Eh bien, il y a des signes qui ne trompent pas. D'abord, l'isolement. La personne qui commence à s'isoler, la personne qui devient taiseuse, n'est-ce pas, qui ne parle plus, et qui ne s'exprime plus, et qui est là, renfrognée, n'est-ce pas, triste, mélancolique,
qui se replie sur elle-même.
Ce sont des signes de ce qu'on appelle une dépression. Et lorsque la personne commence à présenter, mais qui ne mange plus, qui se nourrit plus, et tout, eh bien, ce sont des signes de dépression. Et lorsque l'on est en présence de ces signes-là, il est important de s'intéresser à la personne.
Ce sont des signes d'alerte.
Des signes d'alerte. Il faut poser des questions, il faut approcher la personne, il faut lui montrer l'amour, lui montrer l'amitié, lui donner beaucoup d'affection et l'amener à sortir d'elle-même et à s'exprimer, n'est-ce pas, et à dire son problème. Parce que ce n'est pas toujours évident qu'on soit à même de dire son problème, parce que souvent on est un peu, disons, enfermé, accablé et tout, n'est-ce pas.
Voilà. Deux autres, je vais revenir à la question de José de Camina tout à l'heure. Serge Kingi nous appelle de Kindu, Arthur Ngolou est à Kinshasa. Serge, bonjour.
Bonjour, je dis...
Bonjour,
M. Labbé.
Oui, bonjour. On vous écoute, Serge.
Oui, ma question est de savoir que dit la loi congolaise à une personne qui a la tentative de se suicider ou de se pendre. Ça, c'est ma première question. Et que dit la loi congolaise à une personne qui a la tentative de se suicider ou de se pendre? Parce que je vous assure, M. Jody Daniel Kachama, j'ai un exemple concret. C'est un jour à Bukavu.
Oui.
On avait trouvé une personne qui fait de faire le testament. Après ça, on a appelé la police et on lui a arrêté.
La personne était après en train de faire, de rédiger le testament et s'est préparé à se suicider.
Il s'est préparé pour se suicider. Il avait mis un fil là en haut.
Oui.
Et il commençait déjà à faire son testament, il a mis une chaise pour laquelle il va monter pour se suicider, pour se pendre. Maintenant, on a dû appeler la police et on ne sait pas comment était la conclusion. Ma dernière préoccupation était, bon, que l'invité peut nous donner, surtout nous les jeunes, quel conseil auquel l'invité peut nous donner. Je vous remercie, M. Daniel Kamara.
Bien. Arthur Ngolou de Kinshasa, bonjour.
Et bonjour, messieurs les journalistes.
On vous écoute, allez-y rapidement.
Oui, c'est Arthur Ngolou, je vous appelle à partir de Kinshasa. Ma préoccupation était de savoir si le suicide ou tentative de suicide peut-il être une infraction qui peut porter atteinte aux personnes voisins de la personne qui s'est suicidée, ou bien le suicide peut être une infraction propre à celui qui se fait lui-même, qui se donne lui-même la mort. Je voudrais que l'invité puisse donner quelques éclaircissements concernant ses points de vue. Je vous remercie.
Bien, merci. Joseph Pungu, hein, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, ministre de Dieu, qui est notre invité là-bas.
On vous écoute.
Monsieur Labé, je voulais poser une question, deux questions plutôt. Concernant, bon, j'aimerais savoir la différence qui existe entre le suicide et la pendaison, premièrement. Deuxième question, si quelqu'un se suicide à cause de non-paiement de son salaire, l'infraction sera frappée par l'entreprise, soit par lui-même et celui qui s'est suicidé. C'était ça mes deux préoccupations.
D'accord. Revenons d'abord à Joseph de Kamina qui dit que c'est un problème spirituel. Quand une personne se suicide, d'après lui, il y a l'intervention des esprits mauvais qui le poussent à commettre cet acte ignoble. Monsieur l'abbé.
Bon. Je ne voudrais pas trop entrer dans ces genres de considérations parce que j'ai horreur de ce que je considère comme une sorte de mysticisme ou une mystification des problèmes humains, n'est-ce pas? Un problème humain est un problème humain, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a l'esprit qui est concerné, le corps est concerné, c'est l'homme tout entier qui est concerné. Et la personne qui est confrontée à des problèmes, il faut pas aller trop vite dans des considérations du genre, il est possédé par les esprits, il est possédé par le démon, il est possédé par le diable, mais vous passez peut-être à côté de son vrai problème, n'est-ce pas? Son vrai problème est ailleurs, n'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi moi j'ai dit, n'allons pas trop vite en besogne en disant c'est un problème spirituel au sens où la personne est possédée par des esprits mauvais, le diable, le démon, Satan, et tout qui l'habite et qui non, il y a, je crois, ce qu'on appelle la responsabilité de la personne humaine face à tous les actes qu'il pose, qu'elle pose, n'est-ce pas? Mmh. Et chacun de nous est responsable de ce qu'il fait. C'est trop facile d'attribuer à des forces irrationnelles, n'est-ce pas, les causes de ce que nous avons décidé nous-mêmes de faire pour une raison ou une autre. Plutôt que de verser dans ce domaine-là, il m'importe à moi, pour aider les gens, d'aller vers leurs problèmes. Comme j'ai dit tout à l'heure, de les écouter et de leur dire, écoutez, votre problème, c'est celui-là, parce que après vous avoir écouté, voilà ce que j'ai retenu de votre problème. Mmh. Est-ce que nous pouvons maintenant ensemble analyser les causes de ce problème? Est-ce que nous pouvons maintenant ensemble chercher les solutions à ce problème? Les solutions qui vont vous permettre de retrouver la joie de vivre et de retrouver l'élan de vie.
Voilà. Un auditeur, José, dit, quelle est la différence entre les suicides et la pendaison?
Eh bien, la pendaison, c'est un moyen. Hein, tandis que le suicide, c'est, disons, ça englobe l'acte de se donner la mort. Mmh. Et maintenant, comment on se donne la mort? On peut se donner la mort par la pendaison. Mmh. On peut se donner la mort par un coup de feu dans la tête. Dans la tête. Oui. Bon, ça, ce sont des moyens pour se donner la mort.
D'accord.
Donc, on ne peut pas établir une différence. On peut plutôt dire tout simplement que la pendaison est un des moyens auxquels les gens qui veulent se suicider recourent pour arriver à leur fin.
Alors, il parle aussi de quelqu'un qui n'a pas perçu son salaire depuis plusieurs mois et il en a marre, et la personne en a marre et elle préfère se donner la mort.
Eh bien, je crois que se donner la mort ne va pas lui donner son salaire, n'est-ce pas? Ça, c'est une première chose. Hein, et par rapport à cette question de salaire, je crois qu'il y a ce qu'on appelle la revendication des travailleurs, n'est-ce pas? Pour que leurs employés, leur employeur plutôt, leur donne un salaire convenable. Donc il y a ce qu'on appelle la lutte sociale. Hein. La lutte sociale, malheureusement, nous n'avons pas une tradition de lutte sociale dans notre pays. Mmh. Et c'est ce qui fait que face à ce genre de problème, ben, on est un peu démuni, on est dépassé et on peut facilement recourir au suicide. Maintenant, quand une personne qui n'a pas perçu son salaire pendant des années et on arrive à décider de se suicider.
Les enfants ne vont pas à l'école, à la maison, voilà, maman, la femme voilà, demande l'argent tout voilà, moment. Le problème.
Voilà, les problèmes et des problèmes, ils se disent autant mettre fin à ma vie parce que je n'arrive pas à m'en sortir. Eh bien, ce suicide, bien entendu, n'est-ce pas, il emporte la responsabilité parce que c'est lui qui a décidé de se suicider.
Oui.
Mais d'un autre côté, il est vrai aussi que la société emporte une part de responsabilité dans la mesure où c'est une société désorganisée, c'est une société injuste, c'est une société où on ne respecte pas les droits
des uns et des autres.
Oui. Alors, en ce moment-là, il y a lieu, bon, je ne sais pas si on peut parler de sanctionner la société, mais il y a lieu de travailler pour un changement de la société.
Alors, il y a Arthur qui nous dit, est-ce que la personne qui se donne la mort, est-ce que son entourage est responsable?
Ben,
elle sera poursuivie.
Ben, justement, ce que je viens de dire, c'est dans la mesure où la responsabilité peut être partagée. C'est-à-dire, je prends un exemple, n'est-ce pas? Tu harcèles quelqu'un. Tu harcèles quelqu'un parce que, je dirais, il a ta dette. Tu harcèles cette personne au point que tu mets cette personne, tu pousses cette personne à bout, n'est-ce pas? Et la personne se dit, ben, comme je n'ai pas les moyens pour honorer cette dette, pour payer cette dette, eh bien, la seule solution qui me reste, c'est de me suicider. Comme ça, je n'existe plus, je n'ai plus ce problème, et lui, bon, il n'a qu'à aller chercher sa dette
ailleurs,
n'est-ce pas? Eh bien, cette personne qui harcèle l'autre porte une part de responsabilité. Mais maintenant, bon, quand tu es mort, tu vas porter plainte comment? Et la personne qui t'a harcelé et qui t'a poussé, je dirais, jusqu'à te suicider, mais cette personne continue à vivre, n'est-ce pas? Alors, j'en reviens maintenant justement à cette question juridique, n'est-ce pas? Par rapport à notre code pénal, là, je renvoie les auditeurs à des juristes, mais que je sache, d'après mes connaissances, je ne vois pas dans notre constitution, dans notre code pénal, je ne vois pas une loi par rapport au suicide, ni à ceux qui se suicident, ni à l'entourage de ceux qui se suicident. Je ne vois pas une loi qui considère le suicide comme une infraction punissable, n'est-ce pas? Bon, quelqu'un qui a tenté de se suicider, ce n'est pas une infraction, à mon sens, c'est plutôt un appel, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, un SOS. Alors, la meilleure chose à faire par rapport à quelqu'un qui a tenté de se suicider, ce n'est pas de le mettre en prison, ce n'est pas de le mettre au cachot, ce n'est pas de le punir, non, c'est de lui poser la question de savoir, mais qu'est-ce que tu as comme problème qui t'a amené à penser à te suicider?
Oui. D'accord. Alors, donc, on retient que certaines personnes disent que le suicide est une lâcheté. Est-ce que vous, qu'est-ce que vous en dites?
Bon, là, c'est un jugement. Un jugement que je m'abstiendrai de faire. Parce que quelqu'un qui se suicide, eh bien, a des raisons de se suicider. Il y a toujours des raisons.
Il y a toujours des raisons.
Oui.
D'où alors, il faut prévenir.
Il faut prévenir. Oui. Et pour prévenir, eh bien, je crois qu'il faut apprendre aux gens comment résoudre les problèmes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Deuxième chose, pour prévenir les suicides, on pourrait envisager, comme ça existe sous d'autres cieux, n'est-ce pas, un numéro de téléphone SOS suicide. Par exemple,
ça existe dans d'autres pays.
Dans d'autres pays, quelqu'un qui est confronté à des problèmes et qui est au bord du suicide peut composer un numéro et au bout du fil, il y a toujours des gens qui peuvent lui répondre, qui peuvent l'aider.
Des assistants sociaux,
des psychologues, des psychiatres qui peuvent l'aider, n'est-ce pas? Dans notre pays, on devrait en arriver là, avoir un numéro SOS suicide. Ça existe. Alors,
mais il semble que chez nous, ces cas sont très rares parce que de l'autre côté, à l'étranger, par exemple, il y a les Occidentaux. Vous êtes seul, vous vivez seul, tandis qu'en Afrique, on vit en solidarité,
Société. Ce n'est pas aussi rare qu'on le pense. Ce qui est vrai, c'est que nous n'avons pas des statistiques fiables sur le phénomène du suicide. Ça, nous n'avons pas.
Nous n'avons pas.
Mais qu'il y ait des cas de suicide fréquents, réguliers. Ça, on ne peut pas le nier, n'est-ce pas? On ne peut pas le nier. Mais seulement, ici, le problème, c'est que, comme ailleurs aussi, quand quelqu'un se suicide, on n'en parle pas. On préfère ne pas en parler parce que c'est une honte. Quand un membre de famille se suicide, c'est une honte. On n'en parle pas. N'est-ce pas? Alors, maintenant, un élément que nous n'avons pas abordé ici, c'est le suicide collectif. Le suicide collectif comme acte religieux. Et là, nous avons un exemple historique, c'est l'exemple qui s'est passé quelque part en Guyane, n'est-ce pas? C'est le cas de James Jones et de 917 morts. Wow. De Jonestown en Guyane.
Qui se sont donné la mort, pourquoi?
James Jones, c'était un gourou spirituel, eh bien, qui a entraîné
tous ses adeptes à se suicider.
Un suicide collectif qui était considéré comme un acte religieux.
Et il leur a dit, on va se retrouver auprès du père.
De ce genre-là, oui. N'est-ce pas? Et on a un film là-dessus d'ailleurs, qui relate cet incident historique, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui est resté dans les annales de l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? Ce suicide collectif qui est comme un acte religieux. N'est-ce pas? Considéré comme, disons, un acte de...
pour aller auprès du bon Dieu. On va précipiter, aller rapidement voir le bon Dieu. Voilà. Merci, monsieur l'abbé José Poundou. Je rappelle que vous êtes psychologue. Merci et à la prochaine.
Merci bien.